Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. C'est Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui je suis ravie de vous faire écouter une nouvelle histoire de fou d'entrepreneur autour de Luca Pronzato.
On aime bien se challenger parce que si on se challenge, on challenge en même temps nos clients, et c'est là ce qu'on veut créer de vraiment spécial, c'est les expériences. En fait, quand tu viens manger, tu vis un moment qui te devient cher et tu t'en souviens. Et je me rappelle, un grand vigneron me disait ça, tu vois, c'est Jean Foyard dans le Beaujolais qui me disait que la qualité, c'est un peu une addition de détails. Et c'est vrai que pour créer une expérience, il faut toujours aller plus loin, je crois, et toujours pousser ses limites, quoi.
Luca, vous l'aviez déjà entendu brièvement dans un précédent épisode, celui sur les nouvelles formes de restaurants. Mais aujourd'hui, j'avais envie de mettre en lumière Ona, le collectif de jeunes talents qu'il a créé, ainsi que son parcours. Luca aime dire qu'il est serveur et apporte un éclairage alternatif sur ces métiers-là, en montrant qu'ils peuvent être aussi sexy que la cuisine. Curieux et enjoué, il imagine, avec sa troupe, des restaurants éphémères partout dans le monde, avec une extrême créativité et une approche à la fois locale et globale. Avec Luca, nous avons parlé de vision, de programmation, de challenge sensoriel et de projet créatif. Avant de commencer, n'oubliez pas que le partenariat entre À Poil et Elle à Table continue et que vous pouvez retrouver chaque épisode en avant-première, 48 heures en avance, en exclusivité sur elle.fr. Et maintenant, bonne écoute et continuez à prendre soin de vous. Bon, bah bonjour Luca.
Bonjour Julie.
Donc on va commencer en ces temps de confinement par parler des projets, des nouveaux projets, parce que tu as lancé pour lutter contre l'ennui et les projets qui sont reportés, un panier avec un panier Ona où on peut retrouver l'expérience d'Ona à la maison, c'est ça?
Ouais, c'est ça. L'idée, c'était de créer un pop-up à la maison. En fait, on devait faire le Mexique avec Romain Tchitchenko, qui est le chef du Galopin. Vraiment, ce projet a été reporté. Donc, on a décidé de créer un panier rempli d'ingrédients sélectionnés par des producteurs locaux, livré à domicile et préparé pour être cuisiné avec des recettes exclusives par l'un des chefs sélectionnés par Ona. Donc, on commence par Romain Tchitchenko et il sera différent chaque semaine. Donc, la semaine prochaine sera Alexia Duchesne. Et chaque panier, ça te comprend un tutoriel vidéo disponible sur IGTV et tu peux comme ça recréer ton pop-up à la maison. Mais c'est tout pour accompagner les producteurs locaux dans la distribution de leurs produits, tu vois, et un moyen pour que nos chefs invités chaque semaine se laissent quand même, tu vois, libre cours à leur créativité.
Et c'est donc tous les vendredis sur le site, on peut commander, être livré le vendredi, c'est ça?
Exactement. En gros, toutes les commandes s'arrêtent le jeudi chaque semaine pour laisser un peu le temps de s'organiser, parce qu'on travaille que des produits frais, comme tu peux t'imaginer. Et donc jusqu'au jeudi et tous les vendredis, livraison à domicile, ouais, pour une expérience le samedi ou le dimanche chez toi. Donc on commence par le petit déjeuner, un hommage avec à l'appart, notre pub qu'on a fait dans un appartement parisien, que petit déj et goûter. Et la semaine prochaine, ce sera un dîner gastronomique fait par Alexia Duchesne.
Fait par ses propres mains, version Alexia Duchesne.
C'est ça, exactement. Merci.
Ça, c'est comme ça que tu fêtes les 1 an d'Ona. Voilà, ça va faire 1 an là, que tu as lancé. Tu peux rappeler le concept global, parce que c'est assez varié, finalement.
Oui, bien sûr. Bah, déjà, Ona, ça signifie la vague en catalan. Donc, ma mère est catalane, c'était un peu pour la célébrer. Donc, le concept, ça déroule de l'expression « venir par vague », je crois, sans cesse renouveler. Sans cesse différente. Ona, ça ambitionne de donner aux chefs, sommeliers, baristas, etc., qui ont travaillé dans de grands restaurants, une plateforme qui promeut l'horizontalité des talents et la prise de risque créatif. Donc, en gros, on s'implante de façon temporaire dans des lieux toujours inédits. Tu vois, ça peut aller d'une semaine à 6 mois, dans des lieux qui varient d'un restaurant sur la plage à, tu vois, au Portugal, ou un vieux réservoir d'eau à Bâle, ou un appartement sur le toit de Paris, ou encore le pop-up qu'on avait décidé de faire à Mexico City dans un hôtel super du groupe Habitat.
On va revenir au fur et à mesure de l'entretien sur les différents pop-up, mais moi, je voulais déjà parler de toi en particulier. On t'avait déjà entendu dans un podcast sur les nouvelles formes de restauration, mais j'avais envie de faire découvrir ton parcours aux auditeurs. Ton dernier poste avant de monter au NAS, c'était sommelier au restaurant Noma, le fameux restaurant de René Redzepi à Copenhague. Est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'on imagine d'avoir un tel poste là-bas?
À vrai dire, au Noma, je me concentrais surtout sur le service. Il y avait Mats Klepé qui était un des très grands sommeliers de notre génération. J'ai démarré dans la restauration très jeune. J'ai concentré toute ma vie et j'ai vraiment aimé les vins nature forcément très très jeune avec une première expérience chez Anselm Selosse en Champagne. Et après mon master en vin, j'ai voulu renforcer ma connaissance du service pour le coup et aller au Noma. Et c'est là où vraiment j'ai appris énormément parce que c'était quand même la référence dans sa recherche d'excellence aux expériences proposées aux clients. C'était assez incroyable. J'ai vraiment, vraiment beaucoup appris. J'y ai passé 3 ans, super formateur. Donc oui, je pense que c'est vraiment la réalité que ça se passe comme jamais. C'est une expérience vraiment, vraiment spéciale. Et c'est là vraiment où m'est venue l'idée d'entreprendre et aussi de mettre tout mon apprentissage et mon expertise, je pense, que j'ai acquis là-bas au service d'une communauté, je pense, de talents plus émergents.
Et quand tu dis que tu as commencé très jeune, c'était à quel âge ?
À 18 ans.
18 ans.
Même 17, tu vois. J'ai commencé serveur un peu à Paris dans plein de petits bistrots. Et...
Directement après le lycée ?
Ouais, j'ai commencé un peu les soirs de lycée d'abord. Et après, ouais, directement après le lycée, quand j'étais à la fac en éco-gestion à la Sorbonne. Et je passais surtout mes examens. Il y a quelque chose qui s'appelle une option terminale où quand tu travailles, tu peux aller qu'aux examens. C'est super. Et j'ai travaillé directement, en fait. J'ai tenu un petit bar à vin. J'ai eu beaucoup de chance où il y avait besoin que d'une personne. C'est pour ça que je l'ai tenu. Il s'appelait Chez Alfred, qui est aujourd'hui Verjus. Et c'était la petite cave en bas. Et j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup avec un sommelier, Maxime Royer, qui m'a vraiment formé. Et c'est juste après ça que je suis allé, voilà, chez Anselm Selosse et que j'ai continué plutôt dans le vin. Et
est-ce que le fait d'avoir passé ton enfance dans l'épicerie italienne de tes parents à Paris, ça a influencé ton destin de travailler dans ces milieux-là ?
Ouais, je pense beaucoup. Ouais. Mes parents ont une petite boutique italienne dans le centre de Paris qui s'appelle le Mille Pattes depuis une trentaine d'années. Donc ça a vraiment sensibilisé, je pense, sur l'importance des petits producteurs, mais aussi, je pense, sur les affaires à taille humaine et la beauté du travail et je pense de l'amour pour notre métier. Mes parents, ça fait 35 ans qu'ils travaillent ensemble, juste tous les deux. Ma mère fait les pâtes, tu vois, mon père fait les rayons, la découpe, le fromage, charcuterie. Genre une vraie équipe, quoi. Et leur détermination, leur amour du métier, ça m'a vraiment, vraiment inspiré. Ils sont toujours à la recherche des petits producteurs italiens. Moi, je m'efforce de continuer cette démarche, mais plutôt à ma façon, je pense.
Et tu traînais beaucoup dans l'épicerie quand t'étais enfant? Enfin, t'étais au contact de ce métier déjà?
Beaucoup, ouais, beaucoup. Comme ils travaillaient toute la journée, t'imagines, parce qu'ils sont que deux. J'étais beaucoup dans l'épicerie, à l'arrière boutique, quand ma mère faisait la cuisine. Donc j'ai vraiment, vraiment été mêlé à ça. J'aimais beaucoup aussi la musique. J'en ai fait pas mal, mais j'aimais surtout manger, cuisiner, le vin. Donc je goûtais beaucoup, ça m'y intéressait. Mon père, c'est un vrai amateur et il importait beaucoup, beaucoup de vin italien à la boutique. Et donc je me suis très vite intéressé, tu vois, au Grand Barolo, Barbaresco, au vin plus modeste, tu vois, du Monferrato, de la Montpervien. Donc vraiment d'abord les vins italiens, mais après ça m'a ouvert sur, je pense, ce métier et cet amour pour le vin, c'est sûr.
Et tu avais envie de faire quel métier quand tu étais enfant, tu t'en souviens?
Je crois que je voulais un peu entreprendre, je savais pas dans quoi. J'aimais beaucoup la musique, encore une fois, j'aimais beaucoup le vin. J'étais pas sûr que je voulais faire exactement la même chose que mes parents, et en fait le fait d'avoir commencé assez jeune à travailler dans des restos, ça m'a montré complètement un autre monde, parce que s'il y a une vraie différence entre le monde de l'épicerie dans le pignon sur rue que le monde de la restauration. Et c'est vrai que ça m'a vraiment inspiré de rencontrer des grands chefs. Tu prenais Redzepi. J'ai aussi commencé avec Thierry Breton, tu vois, chez Casimir, chez Michel, qui avait une énorme énergie, qui m'a beaucoup formé. Et je pense que ouais, directement, ça m'a, le métier de restaurateur m'a beaucoup, beaucoup plu. Ouais.
Tu te souviens le jour où tu as eu le déclic de Na?
Ouais, je crois. Bon, ça trottait une sorte d'idée comme ça dans ma tête, mais j'avais un super pote au Noma qui s'appelle toujours d'ailleurs, Daniel Craig Martin, qui était service director à Brewerstone Barnes aux États-Unis, à côté de New York, un restaurant super du chef Dan Barber, et qui était à ce moment-là serveur au Noma. Et on a eu cette longue conversation, tu vois, sur les talents, les personnalités qu'on pouvait rencontrer. Et j'ai vraiment pensé à Ona directement, tu vois, comment rassembler une communauté de personnes avec qui je partage une même vision du service et l'expérience gastronomique, tu vois, comment donner l'opportunité à ces talents d'avoir l'accès à un lieu qui s'approprie, une cuisine, une salle qui leur est propre, comment enlever la pression, tu vois, des investissements nécessaires que vivent tous les restaurateurs indépendants au final, mais surtout faire voyager un concept en s'appuyant sur des partenaires locaux et en la partageant au plus grand nombre des convives, tu vois. Donc Ona, c'était vraiment parti de cette idée de créer un modèle alternatif qui regroupe une communauté de jeunes talents qui leur permet une totale liberté d'expression dans des lieux uniques.
Est-ce qu'il y a des initiatives similaires ou d'autres choses dans des secteurs de métiers différents qui t'ont inspiré ce nouveau modèle?
C'est pas vraiment un nouveau modèle, je pense. C'est quelque chose qui existait déjà, les pop-up, et d'ailleurs qui existe toujours. J'ai eu la chance d'y participer, tu vois, quand j'étais au Noma, on avait fait un pop-up au Mexique qui m'avait énormément inspiré. Dans la jungle à Tulum, où on avait vraiment créé un restaurant à partir de rien. C'était une expérience incroyable. Mais aussi, quand je travaillais au Noma, je partais souvent les week-ends ou pendant les vacances, pendant que le restaurant était fermé, à faire des pop-up avec des copains, donc au Prado, tu vois, à Lisbonne ou encore au Mexique. J'avais fait un pop-up à Lubar chez Joaquin Cardozo et Gaëtan Rousset. Et surtout, j'avais fait un pop-up au Chardon avec Laura Vidal, Harry Cummins et Julia Mitten qui m'avaient vraiment beaucoup inspiré. Donc ouais, je me suis beaucoup inspiré de beaucoup, beaucoup de grands talents de notre industrie.
Tu t'es dit que tu allais le généraliser et enfin, en tout cas, créer ouais, cette communauté de jeunes talents, parce que souvent les pop-up, c'est les mêmes gens qui partent en tournée. Et là, l'idée, c'était vraiment de remixer à chaque fois des nouvelles personnes, pas dire le meilleur de ce qui se fait au moment, mais de faire connaître plein de nouveaux talents.
Ben, c'est un peu ça. Voilà, je vous rappelle encore une fois, hein, je l'ai pas inventé ce modèle, mais on a vraiment essayé de l'améliorer à chaque pop-up. Tu vois, on en a fait 5 en un an. On allait faire notre 6e au Mexique, et c'est vraiment ce modèle éphémère, tu vois, qui m'a vraiment plu. Et je me le suis vraiment approprié à travers mes voyages, et je l'ai plus ajusté à ma vision. Où on rassemble, c'est vrai, une communauté de jeunes talents qui ont travaillé dans des super restaurants et en fait qui changent tout le temps. C'est vraiment une idée de se renouveler tout le temps, c'est de se mettre en challenge et de sortir de sa zone de confort et de pouvoir être une plateforme, j'espère un jour, entre à des moments stratégiques de la carrière de ces talents. Ouais.
Et sommelier et travailler en salle, ça t'a barbé?
Non, pas du tout. j'ai toujours la chance de travailler avec des vignerons incroyables, de surtout de sélectionner leurs vins et de les servir dans nos pop-up. Peut-être ça se voit pas, mais je fais toujours beaucoup de services. J'adore aussi laisser, bien sûr, des jeunes sommeliers. C'est le principe de Ona, prendre la main sur la carte des vins. Comme par exemple, tu vois, Bastien Fidelin, un super sommelier qui travaillait à Saint-Sébastien avant, à Paris.
Je me souviens au pop-up à l'appart.
Exactement, ouais, tu vois, il est très précis, très fin. Il avait fait la carte du monde à l'appart. Dans ce pop-up, on faisait des petits déj et des goûters sous les toits parisiens. Et j'adore beaucoup le faire, toujours. Par exemple, en ce moment, je fais des petits tutos vidéo sur mon IGTV avec toutes les bouteilles que j'adore pour célébrer l'amour du vin consommé seul à la maison.
J'ai vu, effectivement. Mais t'avais envie de liberté, enfin, t'as pas eu envie de continuer dans le modèle classique, enfin, où c'était une envie d'inventer ton propre modèle, de pas suivre cette voie un peu royale, ou pas royale, mais de cette voie toute tracée.
Ouais, je pense que les restaurants éphémères en tout cas, ce qu'on a beaucoup observé, c'était assez réservé à un cercle d'initiés. Et nous, on a voulu l'étendre à une durée un peu moins courte qu'une semaine. Mais je reviens à cette notion de liberté que tu parles. C'est un vrai choix pour nous et pour Ona, parce que ça vient avec des challenges bien spécifiques liés à ce modèle éphémère qu'on défend. Ce qui fait rêver les équipes, je pense, c'est les challenges. Pas de cuisine, tu vois, genre dans un de nos pop-up à Bâle, ou transformer un appart en resto. Ça demande, tu vois, beaucoup d'adaptabilité. Il faut vraiment sortir, encore une fois, de sa zone de confort. Ça fait gagner en responsabilité. Et le modèle est peut-être un peu plus horizontal et participatif parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, chacun est vraiment invité à exprimer sa créativité, tu vois, et toujours un peu sans les risques d'investissement d'un lieu physique pérenne, quoi.
Et les chefs, ils sont les chefs ou les sommeliers, tous les gens avec qui tu travailles, ils sont hyper enthousiastes à l'idée de faire ce genre d'événement. Est-ce que ça montre une envie d'indépendance de cette génération?
En gros, je pense qu'ils sont vraiment très enthousiastes. Bien sûr, depuis un an, on a fait beaucoup d'erreurs. On apprend tous les jours à comment aller de l'avant et à s'améliorer. Mais oui, je pense que, en tout cas, avec toutes les personnes avec lesquelles on a travaillé, il y a une notion de liberté qui est vraiment importante, une notion d'indépendance, de peut-être se renouveler et de tester un modèle qui est plus horizontal, tout en respectant énormément le chemin du restaurant traditionnel, que la plupart vont d'ailleurs suivre après avoir fait un pop-up Ona. Je pense que c'est plus une méthode de transition, s'adapter à de nouvelles équipes, travailler avec une communauté peut-être un petit peu plus internationale, s'adapter à des nouveaux produits, des nouveaux producteurs. Donc, je pense que c'est une vraie expérience humaine et ça leur dit. Et d'être bien sûr mis en avant et d'être indépendant, c'est toujours assez cool. Ouais.
Et toi, t'as jamais eu envie d'ouvrir un restaurant ou un lieu à toi dans une forme plus classique? Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait rêver à un moment ou pas?
Ouais, bien sûr. Moi, j'ai toujours adoré les restaurants physiques classiques. Je suis un gros mangeur, donc je les consomme déjà beaucoup. Et bien sûr, ouais, j'ai eu la chance de travailler avec pas mal de grands de la restauration et j'ai toujours pensé à ouvrir mon restaurant. Je pense qu'à terme aussi, on pense aussi parfois à se sédentariser à Paris. Pourquoi pas lancer un lieu qui serait vraiment un vrai laboratoire au noir où on pourrait changer de chef chaque mois, peut-être d'ambiance aussi. On y pense parfois.
Tu n'y as pas renoncé?
Non, jamais. On adore ça. On adore revenir dans les restos qu'on aime, bien sûr.
Donc, comment tu t'y es pris quand tu as eu cette petite graine Ona dans la tête pour construire ton projet?
Bah, déjà, c'est assez intense, quoi, parce qu'on quitte son boulot qu'on aime tant. Donc, j'étais au Noma, j'aimais vraiment, vraiment ce restaurant. Je l'ai quitté en décembre du coup 2018 et tu te retrouves quand même assez seul et t'as un peu peur, surtout quand tu montes ton projet. Mais je pense que j'ai beaucoup travaillé et on est allé vite. C'était en décembre, je voulais monter au Portugal mon premier pop-up. J'ai rencontré Patricia Pombo qui était sommelière au Prado à Lisbonne. Elle m'a aidé sur le projet directement. On a trouvé un lieu devant la plage. On a convaincu, tu vois, le gérant de nous laisser refaire le resto et de partager les bénéfices s'il y en avait, bien sûr. Et en avril, on était ouvert, tu vois, 4 mois après, et on avait lancé Ona at the Beach. Donc, ça s'est fait assez organiquement, très rapidement, et surtout avec beaucoup, beaucoup de travail et de volonté, je crois.
Oui, puisque t'es installé à cheval entre Lisbonne et Paris. Ou...
Ouais. Non, toujours. Une partie de l'équipe est toujours basée à Lisbonne. On voyage beaucoup à Lisbonne. On vient de fermer notre seconde résidence à Lisbonne, qu'on avait fait dans un super petit boutique hôtel qui s'appelait Tag, dans une sorte de musée. C'était top, ça s'appelait le Museum d'ailleurs. Et on a commencé à Costa Caparica plutôt qu'à Lisbonne, plus précisément. Donc c'était, tu vois, une sorte de restaurant devant la plage, comme un bistrot un peu moderne où on faisait des plats à partager, bien sûr, basés de producteurs tout autour. De la région de Lisbonne et de la Ntejo, juste à côté. Et on faisait du poisson au barbecue qui était pêché juste devant le matin, donc c'était une chance. On a invité, en plus de ça, tu vois, 15 chefs en résidence en 6 mois, un chaque semaine. Donc, on avait une équipe de résidents qui assurait les lunchs et le soir, ils se mettaient à cuisiner avec un chef différent qui venait assurer une résidence le soir. Donc, on a accueilli, tu vois, plein de gens différents, Mazzo Roma, Gareth Storey, ou encore, tu vois, Nikki de Neta Mezcal, une super productrice de mezcal au Mexique, ou qui était venu faire un pop-up avec Edo Fiaschi du Noma.
Donc en parallèle, tu as commencé à construire aussi très vite ta troupe de cuisiniers et jeunes talents.
Ouais, après c'est toujours, j'aime bien quand on dit troupe, hein, mais c'est toujours en mouvement, quoi. Encore une fois, on n'impose rien, hein, donc c'est-à-dire que les chefs, les amis, les sommeliers, les baristas, ils restent le temps qu'ils veulent. Et pour l'expérience qu'il leur dit au moment, c'est souvent ça se fait souvent comme ça, assez naturellement. Ouais. Mais ouais, j'adore l'idée de troupe parce que c'est vrai que comme on a une même passion tout autour du monde, en fait, tu te rends compte que le monde de la restauration et surtout de notre restauration un peu moderne, un peu jeune, il est très petit, quoi. Donc on a des copains un peu partout et c'est trop bien.
Je lisais dans un article paru sur toi que tu préférais le côté groupe de rock. Enfin, que t'aimais bien le parallèle avec le groupe de rock qui part en tournée dans le monde entier.
Ouais, j'adore ça. Ma copine dit souvent que les chefs sont les nouveaux DJ. Moi, j'aime bien dire que ouais, les chefs sont un peu les nouvelles stars et tu vois la cuisine, la nouvelle musique. Et en fait, c'est vrai que nous on voit un peu nos pop-up des fois comme une programmation musicale où tu peux vraiment consommer un lieu grâce à l'artiste qui est dedans. Et en fait, l'artiste qui est le chef devient vraiment, tu vois, l'élément principal de cette expérience, quoi. Et cette expérience concrète qui est gastronomique, c'est vache, ça peut vraiment se référer à un concert. Et donc, on aime bien voir le monde de la cuisine comme ça, où tu vois, on pourrait y mêler de la propriété intellectuelle et plein de choses comme ça, parce que c'est vrai, au final. Tu vois, les recettes, c'est un peu comme des chansons, comme des titres. Et ouais, les chefs, c'est les chefs, mais bien sûr, on parle souvent que des chefs, mais bien sûr, les serveurs, les sommeliers, les plongeurs, c'est aussi les stars du métier.
Ouais, ouais, c'est tout un groupe à chaque fois qui entre en jeu. Et après Lisbonne, après la première étape de Lisbonne, quasiment en parallèle, tu as lancé un restaurant dans un ancien réservoir d'eau, sans fourneau ni électricité, rien ne t'arrête.
Ouais, ça c'était à Bâle, ouais, c'était pendant la rencontre de la DAR à Basel. Donc on adore l'art, on adore les mondes créatifs, les métiers créatifs. Donc c'est toujours une chance de pouvoir organiser des événements en parallèle de ces grands événements qui mettent en valeur beaucoup d'artistes d'art contemporain. Et donc ouais, on a repris un réservoir d'eau qui s'appelle Filter Fear, qui était un lieu magnifique qui concentrait toute l'eau de Basel au XXe siècle, donc assez incroyable, avec du sable partout, et oui, sans électricité et vraiment sans rien pour faire la cuisine. Donc on a fait ça assez trivial, quoi. On s'est inspiré vachement des cuissons au feu argentins. On a installé un assador, même plusieurs, un peu à la Francis Malman, un super chef de Patagonie, où on faisait cuire des agneaux pendant 12 heures avec le chef Thibaut Marlin, chef de Carbone, mais aussi clairement Garnalect, qui est un super chef ex-Septime. Et ouais, c'était incroyable de se challenger comme ça. C'était vraiment cool.
C'est important de surprendre en investissant ce genre de lieux qui sont dédiés à la cuisine ou des endroits où personne n'irait imaginer aller manger, comme l'appart aussi qui était à Paris non ouvert au public, un lieu d'un particulier.
Ouais, complètement. Alors, je pense qu'on aime vraiment créer des expériences où on célèbre la cuisine et le moment partagé, et la cuisine de nos chefs, les plats de nos céramistes, les vins de nos producteurs, et ces lieux insolites, je pense, et la passion qu'on y met dedans à les transformer, être vraiment à célébrer des expériences, tu vois, comme un moment spécial. Et on pense que, tu vois, le luxe pour nous, c'est peut-être pas le caviar et le champagne, même si on adore ça, c'est plutôt l'expérience qu'on crée et qu'on peut partager ensemble. Et tu vois, c'est l'exemple à Paris. C'était vraiment un de nos plus gros challenges, je pense, où on a repris un appart qu'on a transformé en resto. Et ouais, on a fait que des petits déj et des goûters. On faisait 10 services au petit déjeuner à 9h, tu vois. Donc t'imagines la plonge, il y avait 10 services et 10 plats différents. Donc il y avait 3 fours rationnels, 4 frigos, 4 tables d'hôtes, les barbecues. Donc c'était assez intense. On faisait 100 couverts par jour dans un appart de particulier. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, oui, c'était privé comme lieu, mais au final, on l'avait rendu public parce que tout le monde pouvait y accéder sous réservation, bien sûr. Et il y avait vraiment une ambiance particulière à 9h du matin quand tu manges un menu gastronomique. Il y avait vraiment une perte de repères et un nouveau challenge sensoriel où à 9h15, les guests refusaient pas un peu de pétillant naturel dans leur mimosa, quoi.
Et ne pas faire les choses comme tout le monde, c'est une obligation pour toi?
Non, mais le fait d'avoir
proposé des petits déjeuners, des goûters, enfin, tu vois, tu vas vers des trucs qui sont pas hyper habituels. Enfin, moi, je trouve ça hyper cool et ça change. Et comme tu dis, tu fais un peu perdre les repères aux gens. Mais
ouais, c'est un vrai. On aime bien se challenger et on aime bien se donner des vrais défis. Et c'est vrai qu'on a tellement été habitué à ce monde du service qu'on aime tant, qu'on essaie vraiment de se renouveler à chaque fois. Et oui, c'est vrai qu'on aime bien se challenger, parce que si on se challenge, on challenge en même temps nos clients. Et c'est là ce qu'on veut créer de vraiment spécial, c'est les expériences. En fait, quand tu viens manger, tu vis un moment qui te devient cher et tu t'en souviens. Et je me rappelle, un grand vigneron me disait ça, tu vois, c'est Jean Foyard dans le Beaujolais qui me disait que la qualité, c'est un peu une addition de détails. Et c'est vrai que pour créer une expérience, il faut toujours aller plus loin, je crois, et toujours pousser ses limites, quoi.
On va faire une petite pause aller-retour que j'ai plus ou moins adaptée. Tu répondras à ce que tu veux.
Ok, ça marche.
Pour le côté sommelier, ton âge?
28 ans.
Ton vin signature?
Initial dans Semsolos.
Ton vin préféré?
C'est pas faire. Vin préféré, le bout du clos dans Semsolos. Je suis un gros geek.
Le chef ou sommelier que tu admires le plus?
Pas français, mais il parle très bien français, pardon pour ça, mais Carlos Horta Simas du Vilamas à Palamos en Catalogne.
Ton ingrédient préféré? Enfin, c'est ce que je demande d'habitude de chef, je sais pas si t'en as.
Ouais, j'en ai un truc un peu gore pour certains. Les escamoles, c'est les œufs de fourmi. C'est délicieux, c'est le caviar mexicain. On faisait ça sur une tostada au Noma, c'était top.
Et ton ingrédient détesté?
Bon, pas très intéressant, je crois, mais j'ai jamais aimé la pâte de coin.
Ton ustensile fétiche?
Le limonadier, bien sûr.
Ton dernier meilleur repas?
Elcano, au Pays Basque. Des turbo barbecue avec le collagène du poisson en guise de beurre blanc. Magnifique.
Ça donne envie.
Ouais.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
Bon serveur.
Et la pire critique?
Mauvais serveur.
Bon, ça signifie quoi pour toi de faire ce métier?
C'est une question un peu intense, mais je pense que j'ai fait ça depuis longtemps et je suis vraiment habité par ce métier. Tu vois, servir les gens, je me suis toujours dit que c'était un peu un privilège, tu vois, une chance, tu vois, de se dédier à l'autre pour lui faire vivre un moment spécial. C'est toujours quelque chose de très beau, et quand les grands professionnels de ce métier, j'en ai beaucoup dans ma tête, me comprendront dans ce que je dis, quoi. C'est vraiment une chance de faire ce qu'on aime.
Et qu'est-ce que tu cherches à transmettre aux clients?
Je pense que ça va un peu ensemble, quoi. C'est, je pense, l'amour du métier, toute l'énergie qu'on met dedans, la beauté du service, qui est quand même un travail assez incroyable, mais aussi le travail des producteurs, et célébrer toutes ces personnes, tous ces jeunes talents qui donnent vraiment leur vie pour rassasier l'être humain, je pense.
T'as eu des modèles de personnes qui t'ont transmis cette passion, cette...
Je pense mon père, déjà, mon père et ma mère, bien sûr, qui, encore une fois, toute leur vie se sont dédiés à ce métier avec beaucoup de passion et d'énergie. Anselm Selos et Guillaume Selos en Champagne, que j'ai déjà cité, mais qui ont vraiment changé ma vie. J'ai fait un tour du monde du vin aussi. On a goûté 3000 vins et fait 500 producteurs, 30 pays différents. J'ai rencontré Gérard Basset, qui est malheureusement plus de ce monde, qui était le gars le plus titré peut-être dans le vin, et qui avait une sorte d'humilité incroyable. Je m'en rappellerai toujours. Donc oui, il m'a beaucoup beaucoup inspiré, et bien sûr les chefs avec qui j'ai travaillé. René Adzepi, mais aussi James Bradbury, qui était le restaurant manager, et puis dernièrement Bertrand Grébeau du Septime et Théo Pouria, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour eux.
Parce que c'est vrai que j'en parlais justement avec Bertrand et Théo, de côté pas très sexy de la, du service de salle et de ces métiers-là. Et je trouve qu'avec Ona aussi, tu apportes une autre image. Et est-ce que tu sens qu'il y a un nouvel intérêt pour ces métiers qui, enfin, tu vois, tu les mets en avant d'une autre façon et je trouve que ça permet aussi de leur redonner du sex appeal.
Merci de remarquer ça, merci de remarquer ça parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très important pour nous de mettre en valeur toutes les parties de notre métier. Et oui, comme tu peux le voir, tu vois, tout le monde porte les mêmes uniformes, on ne l'a pas inventé, hein, mais les chefs sont nos stars, mais les serveurs et toutes les personnes qui entourent entoure un service et une expérience le son. Et oui, oui, je pense que déjà c'est très très sexy de servir. Si on regarde les beaux services, désolé s'il y a des personnes qui mettent pas du leur, ils devraient changer ça parce que de toutes les mimiques de service, les attentions, rentrer dans la tête d'un client et vouloir lui plaire, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et oui, oui, on mettra toujours en valeur. Je pense à une conférence d'ailleurs dernièrement qui a été l'idée à Copenhague dans le projet de MAD. Donc MAD, c'est un super projet associatif qui a été lancé par René Redzepi et son équipe, donc l'équipe du Noma, qui met en valeur des grands chefs et des grands projets de ce monde. Il y a quelques mois, ils ont fait une sorte de conférence sur qui s'appelait We Are FOH, donc We Are Front of House, donc on est des personnes de la salle. L'idée par James Bradbury d'ailleurs, récent manager du Noma, mais aussi des super gars du Clove Club, par exemple, à Londres. Donc, Daniel et Johnny, qui sont des légendes du métier, quoi. Et ça fait des années qu'ils se dédient aux clients et dédient à ce métier de service. C'est magnifique, quoi. Donc, je souhaite à tout le monde de prendre ce travail très au sérieux.
Et tu sens que dans les jeunes talents que tu vois, que tu repères, il y a un nouvel intérêt pour la salle?
Bien sûr, ouais, bien sûr. Mais je pense qu'il y a toujours eu un intérêt pour la salle. On a une façon de servir et de mettre en avant le service dans certains pays ou dans certaines villes peut-être qui est un peu plus nonchalant, qui est aussi un style de service. Ça veut pas dire que les personnes qui ont toujours fait ce métier n'ont pas aimé le métier de serveur et de barista, de barman, de sommelier a toujours été très prisé et je pense qu'il y a toute une nouvelle génération qui adore ça et je remercie toutes les personnes qui sont très réactifs à nos projets, nos initiatives de Ona pour les mettre en avant et on va vraiment continuer ouais, parce que c'est un super métier. Encore une fois, je le recommande à tout le monde.
Et concrètement, qui sélectionne les talents de d'Ona? C'est toi?
En partie, donc oui, pour l'instant, on est une très petite équipe. Donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup de pop-up.
Vous êtes combien?
On est quatre. Donc, souvent des personnes de la salle, d'ailleurs, des chefs. Donc, Patricia Pombo, qui a commencé avec moi, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi aussi, Nora Garberson, qui était avec moi, Noma, qui était à la salle de Bâle. Et, qui sont des, une qui est plus, tu vois, qui fait toute le chef, qui est plus chef de projet. L'autre qui s'occupe plus de l'expérience. J'ai aussi une personne qui m'aide à la communication, qui s'appelle Carmo, qui est une super chef de projet aussi portugaise. Et après, bien sûr, la communauté s'agrandit quand on fait des pop-ups. T'imagines bien, on invite beaucoup de chefs et de personnes dans la salle. Mais je fais beaucoup ça. J'ai la chance de toujours beaucoup le faire comme on est une petite équipe, de sélectionner des chefs. Donc surtout moi, mais beaucoup de personnes viennent à nous et on en est très reconnaissants et continuent à nous écrire des messages. C'est super cool parce qu'on aimerait toujours rencontrer encore plus de jeunes chefs et talents.
Tu goûtes beaucoup, tu vas repérer dans les nouveaux restaurants, un peu partout, t'es à l'affût.
Ouais, complètement. Par contre, ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Aller goûter. Je voyage un peu, donc j'aime beaucoup beaucoup m'inspirer de cultures différentes, tester plein de restos. C'est vraiment une vraie passion. Je continue. C'est pour ça que quand on me demande si la forme traditionnelle des restaurants m'inspire, elle m'inspire beaucoup. Parce que je fais beaucoup ça de ma semaine, d'aller goûter, tester, goûter du vin, aller chez les producteurs, goûter des produits, des légumes, du fromage, des vins. Donc ouais, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup.
Et les lieux, tu les trouves ou on te les propose?
Ça dépend. On cherche pas mal de lieux. On nous propose aussi pas mal d'endroits. on a surtout envie de pouvoir, tu vois, refaire le design, instaurer une identité, ce qu'on aime beaucoup le design en général, et refaire des salles, recréer une ambiance. Donc on aime pas mal les hôtels aussi en ce moment, tu vois, qui ont souvent beaucoup de potentiel et une envie de créer des restaurants cool et pas forcément le temps de le faire. Tu vois, comme le groupe Habitat, là on allait faire un pop-up au Mexique, à Mexico City, qui ont des superbes petits boutiques hôtels tout autour du Mexique, qu'avec de l'artisanat mexicain. Et en fait, c'est vrai, de mêler tout ça, les métiers créatifs à ce qu'on fait, ça fait beaucoup de sens pour nous.
Ouais, jusqu'à la vaisselle. Enfin, vous poussez le détail très loin. Je me souviens à l'appart, par exemple.
Ouais, à l'appart, on travaillait avec Judith Lasserie, qui est une céramiste incroyable. Si vous ne la connaissez pas, allez regarder ce qu'elle fait, parce que c'est fou. Ouais, on aime beaucoup, quand on dit partenaires locaux, on ne parle pas que des chefs ou des personnes de la salle ou des producteurs. On parle aussi des céramistes, des charpentiers, toutes les personnes qui pourraient nous aider du son à la lumière et vraiment essayer de rassembler une population qui s'intéresse au projet créatif. Et en fait, la cuisine, c'est un art, le service aussi, et ça s'emboîte très bien avec tous ces autres métiers.
Et comment tu te présentes aujourd'hui, sommelier, chef de file, chef d'orchestre, DA? J'ai imaginé plein de trucs, mais...
Ouais, pas mal, DA. Toujours serveur, je crois, parce que c'est quelque chose qui m'est très cher, que j'ai appris à Noma, et j'aime beaucoup me définir comme un serveur. J'aime aussi me dire fondateur de Ona, parce que je suis très content aussi d'avoir fait ce projet avec toutes ces personnes incroyables. Et ouais, je sais pas, tu peux m'appeler comme tu veux, je t'avoue.
Et en quoi consiste ton travail aujourd'hui? Tu disais que tu fais quand même encore du service, sur chaque pop-up, mais tu goûtes beaucoup aussi, tu fais quoi?
Ouais, beaucoup de travail. Parce qu'encore une fois, oui, on est réparti dans plusieurs pays différents, même si on a vraiment envie de se concentrer pas mal sur la France ces temps-ci. Ça consiste à pas mal de voyages pour aller entre les pop-up. Tu vois, on vient de fermer un pop-up en Suisse à cause du Covid, et aussi un autre à Lisbonne. On allait ouvrir au Mexique, donc c'est beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, beaucoup d'écoutes. Je m'informe beaucoup sur l'actualité de tous les copains de l'industrie. Je lis beaucoup sur ce qui a été fait et ce qui est prévu de faire. Ça m'inspire énormément tous ces créatifs de notre métier un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir essayer de rassembler, tu vois, une communauté plus internationale. Et donc voilà, et beaucoup bien sûr de temps avec l'équipe, on travaille beaucoup.
Et la résidence à Mexico a été reportée, tu disais, a priori à l'automne.
Exactement, à l'automne, j'espère, parce qu'on avait vraiment prévu de créer un petit pop-up assez incroyable sur un toit du nouvel hôtel de Grupo Habitat, qui allait s'appeler Círculo Mexicano, dans le centre historique de Mexico City, à côté des ruines, un truc assez magnifique. On allait faire un bistrot français avec Romain Tichenko, donc un menu gastro inspiré des grands bistrots à la Galopin parisien, mais qu'avec des produits mexicains. Donc oui, reporté. C'est pour ça d'ailleurs que Romain cuisine ou à créer des recettes que vous pouvez recuisiner chez vous pour le premier Ona le panier.
Et justement, en parlant de recettes, j'allais te demander, j'ai l'habitude de finir le podcast en demandant une recette super simple à cuisiner à la maison. Ça a une résonance particulière en ces temps de confinement. Qu'est-ce que tu fais, toi?
Quand tu me prends un peu de cours là, comme ça, je vais parler de la recette qu'il a fait Romain pour Ona le panier. En gros, il a fait une recette assez cool d'asperges blanches, donc c'est très facile. Les asperges blanches, ça se cuit un tout petit peu plus longtemps que les asperges vertes, donc une quinzaine de minutes. C'est bien quand c'est un peu fondant, contrairement aux asperges vertes, donc c'est comme ça que j'aime ça, du moins. Œuf de truite, d'un super producteur qui s'appelle Cole, qui est en Normandie, rare la truite normande, en crème crue, juste une crème crue un peu infusée, nous on l'avait fait au poivre, au verveine, mais ça peut être fait avec d'autres poivres, donc très facile à faire. Il y a à peu près que à cuire les asperges, mettre la crème crue au fond de l'assiette qui a été infusée avec un poivre. Donc, juste cuire la crème un peu avec un poivre. Mettre les asperges sur la crème et mettre les œufs de truite dessus. Voilà.
Très simple. À manger au petit-déj, alors.
Au petit-déj, ouais, s'il vous plaît.
Au brunch.
Ouais. Brunch, ça passe aussi. Ouais.
Cool. Merci, Lucas.
Ah, merci à toi, Julie. Merci beaucoup.
C'était Lucas Pranzato dans la saison 3 d'À Poil. Pour goûter à ses prochaines expériences éphémères, rendez-vous sur wearona.co. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Pour ceux qui découvrent le podcast, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli ou sur Instagram pour ne manquer aucun épisode. Cet épisode a été monté par Julie Tépé, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'À Poil.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, where are you, the police?
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.